Botschaft bracht, dass sein Herzliebchen im Sterben lag, da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Ach, bitte, Mutter, bring ein Licht, mein Liebchen stirbt, ich seh es nicht. Das war mein Mutter, die unser Liebchen ein ganzes Jahr. Das war für mein treuer Cousin, der liebt sein Mädchen ein ganzes Jahr.
Bonjour à toutes et à tous. Vous venez d'entendre « Es war einmal ein treuer Hussar » par Louis Armstrong. Ça a été enregistré à Stuttgart en 1959, ainsi qu'un extrait de la bande sonore du film « Les Sentiers de la Gloire ». Les soldats français reprennent en chœur la mélodie d'un chant allemand pendant la guerre 1914-1918. Étonnant, n'est-ce pas ? Ein treuer Hussar, une chanson populaire allemande qui parle d'un soldat dont la fiancée tombe malade et meurt alors qu'il fait la guerre à l'étranger. Dans le film, c'était une chanson pacifiste allemande fredonnée par des soldats français. Le film « Les Sentiers de la Gloire » de Stanley Kubrick a été interdit pendant 18 ans en France. On y voit entre autres les simples soldats dans la boue des tranchées et les officiers supérieurs confortablement installés dans un château à l'arrière donnant les ordres. Deux classes nettement séparées, deux classes sociales, une classe aristocratique, celle qui donne les ordres et qui envoie les autres se faire tuer, et l'autre, celle qui doit obéir et qui se fait tuer. Et si la Première Guerre mondiale était avant tout la suite meurtrière de la lutte entre ceux d'en haut et ceux d'en bas, initiée dès 1789 ? C'est la thèse du livre de Jacques Powels qui revisite les versions officielles de l'histoire. Jacques Powels est maître de conférences en sciences politiques en Ontario, au Canada. L'historien démontre que les grandes puissances mondiales voulaient depuis longtemps cette guerre pour s'approprier les colonies et les richesses des autres et écraser les idées révolutionnaires qui gagnaient de plus en plus l'Europe. Pour se débarrasser des classes sociales qui dérangent, rien de tel qu'une guerre. Écoutons-le présenter son livre 1914-1918, La Grande Guerre des Classes. On l'a enregistré fin septembre de cette année à Manifesta 2014 sur la côte belge. Il est accompagné de Gilles Martin qui dirige les éditions Aden.
La Première Guerre mondiale n'a pas commencé tout d'un coup dans ce bel été de 14. C'est un peu comme ça qu'on présente les choses dans pas mal de livres. Et ça permet de présenter la guerre comme une surprise, comme vraiment quelque chose qui s'est éclaté un beau jour, comme un orage. Quoi. Et personne ne s'y attendait, personne ne la voulait. Tout d'un coup, c'était la guerre. C'est possible de présenter la guerre de cette façon si on commence les soirs, en juin, ou de préférence en juillet 14. C'était dans un bel été, apparemment, et rien ne s'était passé, sauf un petit incident quelque part à Sarajevo, où quelqu'un avait été assassiné, c'est pas très important, c'est pas vraiment une vraie cause pour faire la guerre. Et tout d'un coup, c'était la guerre. Pourquoi c'était la guerre? Et pourquoi est-ce qu'on présente des choses comme ça? En fait, c'est pour ne pas parler des vraies causes de la guerre. Et quelle était la vraie cause de la guerre? La vraie cause de la guerre, c'est que les élites européennes, je parle des élites européennes, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Russie, voulaient la guerre. Ils voulaient la guerre depuis bien des années déjà. Ils avaient peur que la guerre n'arrive pas assez vite parce qu'il y avait une course, vous savez, une course entre la guerre ou la révolution. On avait peur, une peur énorme de la révolution. On avait peur que la seule façon, on croyait que la seule façon d'empêcher la guerre, d'empêcher la révolution, c'est de faire la guerre. Je parle donc du point de vue des élites européennes. Qui étaient ces élites, qui étaient ces élites plurielles? Eh bien, cette élite était la moitié féodale, pour ainsi dire, aristocratique. C'était les grands propriétaires terriens, la noblesse, les rois, les barons, les propriétaires terriens. Et l'autre moitié de cette fusion qui était l'élite, c'était la grande bourgeoisie industrielle et financière, la capitaliste, si vous voulez. C'était les deux élites. La première élite, l'élite féodale aristocratique, avait un quasi monopole du pouvoir politique, tandis que l'élite bourgeoise, capitaliste, avait un quasi monopole du pouvoir économique. Mais ils travaillaient ensemble. Ce qu'ils avaient en commun, c'était la grande peur. La grande peur des masses populaires avec leurs idées révolutionnaires. Parce que les grandes masses populaires, une grande partie de ces masses populaires, étaient devenues socialistes marxistes, socialistes internationalistes, socialistes révolutionnaires qui parlaient de révolution tout le temps. Alors on avait une grande peur. Parce que dans la plupart des pays, les partis socialistes étaient en train de devenir de plus en plus grands, de plus en plus importants. Et aux élections, ils gagnaient de plus en plus de place dans les parlements. Alors on avait peur qu'un jour, bientôt, on aura la révolution, ou même on aura une majorité socialiste dans le parlement, ce sera la même chose. Ce sera la révolution par la voie pacifique, si vous voulez. Et ce sera la fin de notre civilisation. Comment empêcher ça? Comment empêcher la révolution? Eh bien, la guerre. Qui avait cette idée que la guerre pouvait empêcher la révolution? Il y a pas mal d'intellectuels à ce moment-là, surtout Nietzsche par exemple. Nietzsche qui était très populaire aussi en France, aux États-Unis, un peu partout. Et les social-darwinistes, ils croyaient que la guerre, c'est une façon formidable de purifier l'air, de nettoyer les tables de l'Europe. Vous savez, ça, c'était. Parce que la guerre, vous savez, la guerre, c'est pas comme la politique. Hein. La politique, c'est malheureusement, du point de vue de l'élite, en 14, la politique, ça veut dire de plus en plus de démocratie. Ça veut dire qu'il y a des représentants des grandes masses qui ont la peur, des socialistes, des révolutionnaires, viennent nous rejoindre au Parlement, oh mon Dieu, ça nous embête, on a peur d'eux, alors comment s'en débarrasser? Et ils discutent, ils veulent des changements, ils veulent des réformes politiques, ils veulent des programmes sociaux, oh mon Dieu! Mais la guerre, vous savez, la guerre, c'est la fin de la politique. La guerre, vous savez, on discute, on donne des ordres, il y en a qui donnent des ordres, nous. Il y en a qui obéissent aux ordres. Vous. Nous, c'est le chef naturel. Mais que par Dieu. Alors nous avons donné les ordres, et vous autres, là, les masses sont plus discutées, plus discussion, on met dans l'uniforme, et voilà, ils vont suivre les ordres. Alors la guerre, c'est formidable. Ce sera la fin de notre grande peur. C'est comme ça que penser l'élite européenne en 14. Et ces idées-là étaient déjà dans l'air dans cette belle époque, comme on disait, qui n'était pas si belle que ça, depuis au moins 1890 pour les Français. Et en 1914, toujours en l'air, l'idée que personne ne voulait la guerre, tout à fait fausse, pas vrai du tout. On a eu la guerre en 14 parce que l'élite voulait la guerre. Et pourquoi elle voulait la guerre? Par peur de la révolution. Et là, je veux toucher un point important, c'est la dialectique, le bon mot, la dialectique. C'est une sorte de interaction entre révolution et guerre. Vous savez, et là, il faut retourner vers la révolution française. La révolution française était certainement une révolution sociale, n'est-ce pas? Où les classes se confrontaient, la bourgeoisie contre l'aristocratie, et le peuple parisien, les sans-culottes contre les aristocrates, etc. Mais comme vous le savez, la guerre, la révolution française a amené à des guerres révolutionnaires, la guerre napoléonienne. Plus tard encore, il y a eu une guerre, la guerre franco-prussienne, qui a produit, dont le résultat a été la Commune de Paris. En 1905, en Russie, il y avait la guerre contre le Japon, qui a produit la révolution en Russie. Alors, il y a cette connexion, cette dialectique entre guerre et révolution. On comprend pourquoi. Quand en France, il y a eu la révolution sociale en 1789, les aristocrates, les monarques de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne, de la Prusse, de l'Autriche, de la Russie ne se permettait pas de rien faire, tandis qu'un régime comme le leur fut renversé en France. Permettre une telle chose de se passer, c'est inviter la même chose chez nous. Alors il fallait supprimer la révolution. Alors il fallait des guerres pour supprimer la révolution en France. Dans les guerres révolutionnaires et la guerre napoléonienne, la France représentait la révolution et les autres puissances représentaient la réaction. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre tout ça. Il y a la guerre et la révolution. Et en fait, en 1914, c'était un peu le même scénario. C'est par le biais d'une guerre qu'on a voulu éviter la révolution. La guerre comme antidote à la révolution.
Mais donc, si je t'entends bien, quelque part, tu expliques aussi ton titre. Parce que tu montres que 14-18 est le fruit d'une lutte de classe qui a commencé en 1789. Donc c'est bien pour ça que 14-18, finalement, c'est la grande guerre des classes. Et donc, on revient avec ce thème un peu galvaudé aujourd'hui, et j'ai posé la question sur ce sujet, des classes sociales, parce que qu'on aille à l'école, qu'on regarde les grandes émissions sur Arte ou dans les livres d'histoire sur la Première Guerre mondiale, on a tendance à présenter ce conflit comme un conflit essentiellement nationaliste entre différents groupes de nations, selon les alliances, etc. Mais donc on oublie que finalement, dans chaque pays, il y avait ceux d'en bas et ceux d'en haut, et qui n'avaient pas forcément les mêmes intérêts. C'est ça que tu expliques en fait.
Oui, il y a. Les guerres sont des phénomènes historiques complexes et on peut les regarder différents points de vue. Et le point de vue conventionnel que l'on retrouve dans la plupart des livres sur l'histoire de la Première Guerre mondiale est la suivante. On vous présente la guerre en tant que guerre verticale. C'est-à-dire verticale des pays, la France et la Belgique et la Grande-Bretagne contre l'Allemagne, l'Autriche en vue. L'Empire ottoman, c'est vertical. Alors on regarde vertical. Les uns contre les autres, les pays contre les pays. Mais attention, on peut aussi regarder la guerre d'une façon horizontale. Il y a une guerre horizontale. Où on regarde le cas de la France, par exemple, ceux d'en bas contre ceux d'en haut. En Angleterre, la upper class against the lower class. Dans la guerre a externalisé d'une façon éclatante cette contradiction entre classes dans chaque pays. Par exemple, dans chaque pays, les soldats, les poilus, les pilotes, c'était des paysans et des ouvriers, n'est-ce pas? Et les officiers, les généraux, c'était des gens de l'élite, c'était des aristocrates. En France, républicaine, le pays le plus démocratique de l'Europe en 1914, grand pays démocratique, là, l'armée, les généraux, étaient surtout toujours des gens qui représentaient un peu l'ancien régime. Ils avaient eu leur problème à cause de l'affaire Dreyfus, mais ils avaient survécu. Et la plupart des grands généraux en 14 étaient toujours des hommes de l'élite, même des aristocrates comme de Castelnau, etc. En Allemagne, les généraux étaient exclusivement de la noblesse. En Angleterre, excusez-moi, seulement des gentlemen officiers. Pour devenir officier, il fallait avoir du fric, il fallait amener son cheval, il fallait avoir du fric, les gens ordinaires, ceux d'en bas, ne pouvaient pas devenir officier. Et les gentlemen devenaient officiers d'office. Un officer et un gentleman, c'est la même chose. Alors dans les tranchées, par exemple, alors, les officiers, ils étaient à l'abri derrière, des poids nus, et en devant. Et cette situation a externalisé. Donc cette contradiction entre ceux d'en bas et ceux d'en haut, ça c'est la guerre de glace. Cette façon de regarder les choses, cette façon de regarder la Première Guerre mondiale, je me suis aperçu pour la première fois, quand je suis encore très jeune, j'ai vu un film que vous connaissez peut-être, Le Chemin de la Gloire, Paths of Glory, avec Kirk Douglas, un film de Stanley Kubrick, un de ses premiers films. Quand Stanley Kubrick est mort il y a quelques années, on n'a pas parlé de son film, on n'a pas parlé de Clockwork Orange et d'autres films qui ont fait ça, comme ça, qui ont en fait fameux, mais on n'a pas parlé de ça parce que vous savez, le film était superstitieux. Il n'était pas autorisé en France, même en Belgique, comme dit, il y avait des problèmes à le montrer dans les cinémas, parce qu'il présentait la guerre comme une guerre de classe. Il s'agit d'une anecdote, d'un épisode au front, auprès d'une unité française. C'est inspiré par la bataille du chemin de l'âme. Et on y voit donc que c'était vraiment un film de guerre, c'était un conflit. Mais dans ce film, on ne voit jamais un seul spécimen de l'ennemi officiel de l'Allemagne. Il n'y a pas un seul Allemand. Il n'y a que des soldats et des officiers, généralement. Et c'est là l'hostilité entre les deux. Les hommes, les poilus dans la tranchée, les paysans, les ouvriers, et les généraux dans leur château, quelques kilomètres derrière, le grand luxe. Alors là, ce film-là, il faut absolument le voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà vu, le film Le Chemin de la Gloire? Bon film, n'est-ce pas? Même en noir et blanc, je l'ai vu 20 fois, et chaque fois, chaque fois que je regarde, je vois quelque chose de neuf dedans. Et c'est un film magnifique. Alors là, on voit bien, il présente la Première Guerre mondiale comme un conflit de classes. Mais quand je dis la Grande Guerre des classes, ce n'est pas juste. J'ai menti un peu. Pourquoi est-ce que j'ai menti? La guerre de classe, le conflit de classe, n'a pas commencé en 14, n'a pas terminé en 18. La guerre de classe, le conflit de classe, c'était déjà là depuis des années. En fait, la version moderne du conflit de classe, on peut dire, a commencé quand? Avec la Révolution française. Et le conflit de classe, dont je parle dans mon livre, celui qui a commencé avec les révolutions françaises, est-ce qu'il s'est terminé en 1918? Nous, au Canada, on dit « Are you kidding? Vous rigolez ?» Il est toujours là. Nous sommes toujours, mais chut, on ne peut pas en parler. Parce que dans les médias, on n'en parle pas. Ça n'existe pas. Alors, c'est pour ça que ce livre-là, je vais vous dire déjà maintenant, il ne sera pas populaire dans les médias. Vous ne le verrez pas, je pense, en télévision. Sauf si Gilles sait l'arranger, il aimerait bien. Parce que ça contredit un peu la version officielle de la Première Guerre mondiale. Vous savez, c'est parce que si on regarde la Première Guerre mondiale comme pas la guerre de classe, mais comme une offensive de la part de l'élite lancée au sein d'une guerre existante, d'un conflit de classe existant depuis longtemps, qui ne se termine pas avec une grande victoire, ni avec une défaite totale en 1918, mais qui va continuer. Alors là, vous arrivez à nos jours, vous apercevez que ce conflit de classe est toujours. Et c'est pour ça que j'ai écrit une grande introduction. C'est pour ça que j'ai dédié beaucoup de temps et d'énergie à parler du 19e siècle, qui a été le père de la Première Guerre mondiale. C'est le 19e siècle qui a produit la Première Guerre mondiale. Un 19e siècle dont beaucoup d'historiens me disent que c'est un long 19e siècle, qui a commencé en 1789, la Révolution française, et qui a terminé en 1914, depuis la Première Guerre mondiale. Et cette guerre, cette Première Guerre mondiale, a été le père, ou la mère, si vous voulez, c'est la guerre, c'est la mère, le siècle, le père, ça m'est égal, du 20e siècle, n'est-ce pas? Parce que les problèmes causés, okay, les problèmes dont je parle dans mon livre sur la Première Guerre mondiale, c'est pas comme si en 1918 c'était terminé, il n'a recommencé rien, non, ça continue toujours, ça continue. Le problème, c'est le conflit de classe est, pour ainsi dire, éternel. Et 14-18, c'était une offensive dans la guerre de classe, avec une contre-offensive de la part de ceux d'en bas, la révolution russe. Et pas seulement la révolution russe, mais la révolution en Allemagne. Et une presque quasi-révolution en Angleterre, dont on ne parle jamais, mais en 1918-1919, il y avait la révolution en Allemagne, il y avait aussi des démonstrations, presque une révolution en Grande-Bretagne, avec démonstrations massives en faveur du bolchevisme à Liverpool, à Belfast et à Glasgow, par exemple, avec toutes sortes de problèmes. Mais comment est-ce qu'on a pu résoudre le problème? Comment, en Angleterre, en 1918, on a pu empêcher la révolution en introduisant des réformes, en faisant des concessions? Par exemple, la journée d'éditeur, etc. Mais alors, est-ce que l'élite, ayant cru que la guerre allait résoudre tous les problèmes, et étouffer une fois pour toutes la révolution, et arrêter le processus de l'occupation, la guerre n'a pas apporté ce qu'on avait attendu? En fait, c'était l'inverse. La guerre a produit la révolution que t'es censé d'empêcher. Et elle a forcé les élites à introduire des réformes politiques et sociales qu'elle avait voulu éviter et même abandonner, tout à fait. Alors elle a fait ça. Alors à ce moment-là, est-ce que l'élite européenne s'est dit, bon, eh ben, c'est comme ça, ça n'a pas marché, bon, on faudra vivre maintenant avec les résultats? Non. Elle a voulu se décider pour trouver une façon de faire ce qu'elle avait voulu faire en 14, c'est-à-dire détruire la révolution qui existait maintenant sous la forme de l'Union soviétique et en fait, terminer la démocratisation, arrêter la démocratie et même détruire toute la législation sociale qu'ils avaient dû introduire. Et la façon dont ils ont pu penser le faire, c'est le fascisme. C'est le fascisme nazi.
Soldiers to the war have gone, who may never return again. 10 million mothers' hearts must break for the one who died in vain. Heads bowed down in sorrow in her lonely years, I heard a mother murmur through her tears. I didn't raise my boy to be a soldier. I brought him up to be my pride and joy. Who dared to place a musket on his shoulders to shoot the mother's darling boy? Let nation liberate their future troubles. It's time to lay the sword and gun away. There'd be no war today if mothers all would say, I didn't raise my boy to be a soldier. What victory can cheer a mother's heart when she looks at her blighted home? What victory can bring her back all she cares to call her home? Let each mother answer in the years to be, remember that my boy belongs to me. I didn't raise my boy to be a soldier. I brought him up to be my pride and joy. And joy. Who dared to place a musket on his shoulder to shoot the mother's darling boy? Let nations arbitrate their future troubles. It's time to lay the sword and gun away. There'd be no war today if mothers all would say, I didn't raise my boy to be a soldier. I didn't raise my boy to be a soldier. I brought him up to be my pride and joy. Who dared to place a musket on his shoulder to shoot the mother's darling boy? Let nations arbitrate their future troubles. It's time to lay the sword and gun away. There'd be no war today if mothers all would say, I didn't raise my boy to be a soldier.
Vous écoutez Radio Campus Lille, 106,6 MHz ou www.campuslille.com. Vous venez d'entendre « I didn't raise my boy to be a soldier », une chanson née aux États-Unis en 1915. Je n'ai pas élevé mon fils pour en faire un soldat, je l'ai élevé pour qu'il soit ma fierté et ma joie. Qui ose lui placer un mousquet sur son épaule pour qu'il tue un autre fils chéri par sa mère ? En 1915, des voix s'élèvent un peu partout pour mettre un terme à la guerre par le biais de négociations. La censure et la police les frontèrent. Rien n'a changé. En 2010, la Fédération des femmes du Québec contre la guerre en Afghanistan a diffusé une petite vidéo réaliste.
Les gens, ils disent « Faites l'amour, pas la guerre ». Ben voyons donc, c'est pas ça qu'il faut dire. Ce qu'il faut dire, c'est « Faites l'amour pour la guerre ». Parce qu'il faut beaucoup d'enfants pour fournir une armée. Moi, j'ai eu 3 enfants. Mon plus vieux est mort en Afghanistan. Mon plus jeune est revenu, mais il n'a pas toute sa tête. Puis là, il y a ma fille qui vient d'être recrutée à l'école.
On a assez étiré l'élastique. Nous exigeons que cesse le recrutement militaire dans les établissements scolaires et que le Canada retire immédiatement ses troupes de l'Afghanistan. Du 12 au 17 octobre, marchez avec nous.
Comme quoi, rien n'a changé. C'était la Fédération des femmes du Québec. À propos de messages, je vous rappelle que ce 11 novembre 2014, vers midi, un hommage sera rendu aux fusillés pour l'exemple à Escaudain, dans le Pas-de-Calais. La Fédération de la Libre-Pensée, section du Nord, et beaucoup d'autres associations militent pour la réhabilitation des fusillés pour l'exemple durant la Première Guerre mondiale. Cela faisait partie des promesses du candidat à la présidence de la République. Engagement non tenu, comme la plupart des autres. Et guerre en cours, bien sûr. Alors, revenons avec Jacques Powels. 1914-1918, la Grande Guerre des classes, le partage du monde et la collaboration de classes. Les partis socialistes ont voté les crédits, à l'époque, les partis socialistes ont voté les crédits de guerre et ont tout fait pour embrigader des dizaines de millions de prolétaires dans cette infâme boucherie. Ils ont trahi le mouvement ouvrier. C'est une habitude. Alors, Jacques Powels.
Si je fais un peu l'avocat du diable, quand on t'écoute, on a l'impression... Moi, j'ai lu le bouquin, donc je connais déjà ta réponse, mais on a un peu l'impression que tu avais ceux d'en bas, quelle que soit leur nationalité, qui avaient les mêmes intérêts, et ceux d'en haut, qui avaient aussi des liens de classe qui les menaient à avoir aussi une sorte de... enfin, les mêmes intérêts. Or, il y avait fatalement des contradictions qui étaient aussi d'ordre national, et où ça se marquait très très fort, et je voudrais que tu abordes ce sujet, c'était aussi sur la question coloniale.
Oui, absolument.
Parce qu'il y avait quand même cette question-là qui était essentiellement... enfin, c'était un enjeu majeur de la guerre aussi.
Une chose à la fois, hein. Une chose à la fois. Oui, c'est pour ça que ce livre est en page. C'est vrai que le désir d'empêcher la révolution, et donc de considérer la guerre comme antidote, comme une façon d'arrêter la révolution, et une façon d'arrêter le processus de démocratisation, était une considération de la part de l'élite européenne, des élites européennes. Mais il y en avait une autre, il y avait aussi un aspect économique. Je parle des pays comme la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Russie, c'est des pays impérialistes, pour utiliser ce terme-là. Des pays qui croyaient avoir besoin de colonies ou de semi-colonies, ce n'est pas nécessairement une colonie formelle, où on pouvait aller chercher des matières premières à bon prix, où il y avait donc de la main-d'œuvre à bon prix, où on pouvait avoir des marchés réservés pour nos produits industriels, etc. Lénine en a fait l'analyse en 1916 dans son livre sur l'impérialisme. Et c'est un fait qu'en 1914, chaque grande puissance impérialiste avait envie de conquérir encore plus de territoires sous la forme de colonies ou n'importe quoi, afin donc d'être plus fort dans cette rivalité parmi les grandes puissances impérialistes. Et il y a des gens qui disent non, ça c'est pas juste. Parce qu'en 1914, le monde avait déjà été partagé. Alors il n'y a plus rien à gagner. Mais ça n'a pas du tout. Parce que c'est vrai qu'on avait partagé. Mais on peut toujours repartager, n'est-ce pas ? C'est vrai que l'Afrique, par exemple, avait été partagée par les grandes puissances qui étaient dans la course de l'Afrique, dans les années 1880, et même la petite Belgique avait trouvé de l'intérieur de Congo, imaginez-vous. Mais un seul pays n'était pas là, ce mois, c'était l'Allemagne. c'était en train de s'unifier, ils avaient fait la guerre contre la France, et Bismarck ne croyait pas dans les colonies, et encourageait la France d'obtenir des colonies en Afrique, afin de détourner un peu la France de l'idée de la revanche, de reconquérir l'Alsace-Lorraine. Alors, l'Allemagne n'avait rien gagné dans la grande course aux colonies en Afrique, ou très peu. Qu'est-ce qu'ils avaient ? Ils avaient la Tanzanie d'aujourd'hui. Ils avaient la Namibie d'aujourd'hui, alors quelques morceaux de désert, etc. Mais il n'y avait rien comme la Belgique avec tout son cuivre, etc. Alors, le pays qui, au début du XXe siècle, était devenu la première puissance industrielle au monde, avait en fait presque rien comme colonie. Elle voulait repartager. Elle voulait, par exemple, les colonies de la Belgique, ou du Portugal, ou n'importe quoi, mais ils trouvaient qu'ils avaient droit à des colonies. Ils voulaient absolument l'avoir. D'ailleurs, alors il voulait partager et repartager. Mais non seulement ça, c'est pas vrai que tout le monde avait déjà été partagé parmi les grands pays, les grandes puissances impérialistes. Il y avait encore des semi-colonies, des pays qui étaient toujours formellement indépendants, et où il y avait encore beaucoup, beaucoup à gagner. Même si on ne pouvait pas rêver d'en faire une colonie, on pouvait pénétrer ces pays économiquement, afin d'y construire un chemin de fer, d'y investir, etc. Je pense au Grand Prix en 1914. Quel était le Grand Prix en 1914 de ce point de vue? La Chine. La Chine était toujours indépendante, mais un pays gigantesque, mais aussi faible. Alors, la Chine invitait des pays impérialistes, des vautours impérialistes, afin de descendre sur la Chine, afin de se servir. Alors, qui s'est servi de la Chine, par exemple? Ben, tout le monde était déjà là en 14, mais il y avait toujours beaucoup de choses à gagner. Pourquoi le Japon a déclaré la guerre à l'Allemagne en août 1914? Ben, le Japon n'avait rien contre l'Allemagne, et l'Allemagne n'avait rien contre le Japon, mais l'Allemagne avait une mini-colonie, une concession, comme on disait en Chine, et le Japon était fort intéressé dans la Chine. Et le Japon a déclaré la guerre à l'Allemagne exclusivement pour pouvoir s'approprier la mini-colonie allemande en Chine et l'utiliser comme base pour en fait pénétrer le reste de la Chine, ce qu'ils vont faire plus tard dans les années 20 et les années 30. Et une autre puissance impérialiste qui avait son œil sur la Chine, c'était les États-Unis, et qui devenait très 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 nerveux quand ils ont vu que le Japon était déjà dans le jeu, eux ne l'étaient pas, et la seule raison pour laquelle, pas la seule, mais la grande raison pour laquelle les États-Unis ont déclaré la guerre à l'Allemagne en 1917, c'était pas pour venir libérer les Français ou les Belges ou n'importe quoi, c'était pour être là quand après la guerre, les grands pays, les grandes puissances impérialistes allaient se repartager le monde, y inclut les semi-colonies comme la Chine.
D'abord, on a parlé un peu des points communs et des contradictions de ceux d'en haut. On peut retrouver un peu les mêmes problèmes de contradiction chez ceux d'en bas. C'est-à-dire que tu abordes aussi naturellement la question, tu as la question aussi des votes et crédits de guerre par les socialistes. Ça aussi, c'est un enjeu intéressant de voir que finalement, ceux d'en bas n'ont pas tellement intérêt à cette guerre. Et on va pourtant voir la plupart des partis ouvriers céder à la propagande nationaliste et s'enfoncer dans la guerre.
Le mouvement socialiste ou les partis socialistes en Europe avait connu une évolution assez importante, assez intéressante, vers la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. C'est-à-dire qu'ils avaient, donc, dans leur programme, il y avait la révolution. Ils avaient lu Marx. Et ils étaient convaincus que la transition du capitalisme au socialisme, alors peut-être pas se faire par le biais d'une révolution. Et c'était dans le programme. Mais ça, c'est la théorie. Et la pratique. La pratique, elle est très différente. Parce que Marx avait dit, pourquoi le prolétariat, ceux d'en bas, voudront faire la révolution et voudront faire à cause de la paupérisation du peuple. Ils deviendront de plus en plus pauvres sous le capitalisme. Et à cause de ça, ils n'auront plus de choix. Ils devront se lever et détruire le système. Donc faire la révolution et créer un avenir socialiste. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y avait une paupérisation en Europe dans les années 1910? Oui et non. En fait, pour une grande partie des ouvriers en Belgique, en France, en Angleterre, en Allemagne, la vie est devenue meilleure. Le salaire a augmenté un peu. Il en a introduit certains services sociaux, comme par exemple en Allemagne, sous Bismarck, un système de, par exemple, système social pour contrôler le chômage, etc. Alors, la vie était devenue un peu plus facile, quoi. Elle était un peu mieux soignée, pour ainsi dire, mieux payée. Il essaie de développer ce qu'on appelait une aristocratie ouvrière. Et en ce cause de cela, et même en même temps, ayant du succès aux élections, pas mal de partis socialistes ont pu envoyer des représentants au Parlement. Ils ont commencé à siéger au Parlement et discuter avec leurs compagnons, leurs collègues bourgeois, etc. Alors, il paraissait que cette idée de révolution était vraiment nécessaire, parce qu'on l'améliorait d'année en année. Et pour nous, le chef, l'oligarchie, comme on disait, des partis socialistes, c'était bien, on était vraiment des gens respectés, je ne veux pas dire des bourgeois respectés, mais on est respectés. Et la prochaine élection, on gagnera encore plus, et il y aura encore d'autres réformes. Alors nous marchons vers un avenir, un meilleur avenir. Il n'y a pas besoin d'une révolution, on pourra arriver au socialisme par une évolution et par des réformes. Alors c'est comme ça qu'on a commencé à parler du socialisme réformiste, n'est-ce pas? Et c'est vrai que ces gens-là ont été de plus en plus intégrés dans l'ordre établi et ont commencé à s'identifier à l'ordre établi. Et l'ordre établi, c'était bien sûr la patrie, parce que c'est la cause de la patrie, c'est la patrie, la douce France, la Belgique qui vous avait offert ces services sociaux, n'est-ce pas? Et quand la guerre arrivera, il faudra défendre les acquis sociaux, parce que ça veut dire défendre le pays. Surtout que l'ennemi, par exemple, du côté de l'autre côté, et là, il y a moins d'avantages pour les ouvriers. Alors, il ne faut surtout pas perdre contre cet ennemi-là. C'est le grand calcul des socialistes et social-démocrates en Allemagne qui disaient, nous avons déjà toutes sortes de services sociaux, tandis qu'en Russie, il n'y a rien. Alors, on ne se permet pas de perdre la guerre contre la Russie, parce qu'on va perdre tout ce qu'on a acquis. Alors, il faut défendre la patrie afin de défendre les acquis sociaux. Et à cause de cela, en fait, l'élite dans plusieurs pays n'avait pas vraiment raison d'avoir peur de la révolution. Parce qu'en fait, ces gens-là, ces leaders, ces chefs socialistes, avaient abandonné l'idée d'une révolution. Mais tout de même, dans leur programme, on parlait toujours de révolution. Et aussi, dans chaque parti socialiste, il y avait toujours une minorité qui continuait à travailler, à œuvrer pour la révolution. Et il y avait certains pays, comme l'Italie et la Russie même, où il n'y avait pas eu de réformes politiques, où il n'y avait pas eu de réformes dans des législations sociales pour améliorer donc le sort de l'ouvrier. Et où donc, à cause de cela, les socialistes sont restés révolutionnaires. Alors la situation était assez complexe. Mais c'est vrai que dans les pays dont nous parlons, qui nous intéressent, la France, la Belgique, l'Allemagne, la plupart des grands chefs socialistes s'étaient identifiés avec leur patrie, parce qu'ils croyaient que c'est grâce à cette patrie qu'on avait a pu avancer la cause de l'ouvrier.
Donc oui, on peut dire que finalement, cette Première Guerre mondiale, cette stratégie, si on écoute de la bourgeoisie, a quand même eu des gros dégâts pour eux, parce qu'on a eu non seulement la révolution russe, qui va créer l'Union soviétique, etc., mais aussi va pousser l'émergence de la Troisième Internationale et de tous ces partis qui vont, enfin de toutes ces minorités dans la social-démocratie qui à terme vont fonder les partis communistes en Europe. Donc finalement, c'est vrai que la stratégie un peu brutale de la guerre à la bourgeoisie a quand même semé des fruits qui n'ont pas si contrôlés.
Oui, l'idée que la guerre allait résoudre les problèmes sociaux n'a pas marché. C'est une ironie d'histoire qu'une guerre qui devait donc servir comme antidote à la révolution a produit la révolution. Mais pourquoi la guerre a produit la révolution? Parce que la guerre a produit d'abord la paupérisation qu'il n'y avait pas eu avant la guerre. Par exemple, en Allemagne, où les ouvriers avaient déjà été gâtés, pour ainsi dire, par Bismarck, et à cause de ça avaient commencé à s'identifier à l'État allemand, à la patrie allemande qui avait été si généreuse envers eux. Et pourquoi l'État avait pu être généreux, c'est une question qui touche au impérialisme social, c'est autre chose. Alors là, les ouvriers allemands, avant la guerre par exemple, mangeaient déjà pas mal de viande, surtout du porc. Ceci, ce n'est pas une invention allemande. Alors, mais il ne faut pas parler. Manger de la viande pour un ouvrier, c'est quelque chose. Et le porc, c'était vraiment quelque chose, c'était des symboles. Manger le porc, c'est le symbole de la prospérité relative de l'ouvrier allemand avant la guerre. Alors c'est à cause de ces saucisses, dans un sens, que les socialistes allemands sont décidés de se battre pour la patrie, pour défendre leurs saucisses, ben, dans un sens, contre les Russes qui ne mangeaient que des pommes de terre. Et nous, avec les saucisses, avec des pommes de terre. Alors la guerre commence et on se bat pour notre saucisse. Et on se bat, on fait des sacrifices énormes. Mais après quelques temps, il n'y a plus de saucisses. Alors nous, on fait des sacrifices, on meurt, on tue, mais les saucisses disparaissent. Il y a moins de pommes de terre, il y a moins de pain. Alors la guerre paupérise les ouvriers dont le chef avait dit c'est plus nécessaire de faire la révolution parce que ça va aller de mieux en mieux, mais non, de pire en pire. Et en fait, c'est pour ça que la cause de la guerre, de la révolution en Allemagne, à la fin de la guerre, c'était le fait qu'il n'y avait plus rien à manger. Et on avait paupérisé les maçons. Et voilà la révolution. Donc Marx avait raison dans un sens. La paupérisation est venue. Et à cause de ça, la révolution est venue.
Vous écoutez Radio Campus Lille, donc c'était la chanson I Want to Go Home, une chanson populaire britannique, Je veux rentrer chez moi. À la suite de la guerre 1914-1918, l'aristocratie de l'ancien régime a partout été remplacée par la grande bourgeoisie industrielle et financière. Actuellement au pouvoir, on en voit les effets. Je vous laisse avec la conclusion de Jacques Powel, ces deux chansons. Georges Brassens, la guerre de 14-18, et In Flanders Fields, par John McCrae, un militaire canadien. Les Flanders Fields, les champs de Flandre, les champs de Flandre à Ypres, c'est à 30 km de Lille à vol d'oiseau. Alors n'oubliez pas, ce samedi 18 octobre après-midi, c'est-à-dire cet après-midi à 16h, à l'Insoumise, 10 rue d'Arras à Lille, la conférence débat, il y a 100 ans, les partis socialistes ouvraient la voie au déchaînement de la Première Guerre mondiale. Donc c'est à l'Insoumise, 10 rue d'Arras à Lille. Vous écoutez Radio Campus Lille, à bientôt. Au revoir.
Le livre est pérégrin comme ça parce que je commence avec la Révolution française, il y a quelques 150 pages dans lequel je parle du 19e siècle. C'est très très important. Je ne pourrais pas commencer un livre en 1914, un livre sur la guerre. Et par après, j'ai encore un chapitre beaucoup plus petit, une troisième partie, dans lequel je parle sur ce 20e siècle qui a été l'enfant de la Première Guerre mondiale. Ça, c'est très important. Parce que ça nous mène vers nos jours. Je veux encore une fois expliquer ce qui s'est passé en 1914. Les Italiens espéraient une grande chose, la guerre. La plus de révolution, l'idée de la révolution terminée une fois pour toutes. La fin de la démocratisation. Et dans un sens, un retour en arrière. On espérait dans un sens, chantable, un retour à 1789. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de ça, la guerre n'a pas marché, on a eu l'inverse. On a eu l'ironie de soi, la guerre qui devait empêcher la révolution a produit la révolution. La guerre qui devait en fait arrêter la démocratisation nous a forcé à introduire d'autres réformes démocratiques. Alors, ensuite, alors, pas de chance. Alors, quoi faire? La réponse, c'est le fascisme. Le fascisme et le nazisme. Pour combattre le socialisme marxiste, internationaliste et révolutionnaire, on va se servir d'un socialisme nationaliste, non marxiste et contre-révolutionnaire. Définition de fascisme. Hitler s'appelait national-socialiste et pas socialiste. Mais certainement pas un socialiste internationaliste, comme le socialisme marxiste était un socialiste national, allemand, non pas socialiste du tout. Mais le fascisme, d'une façon,
en fait de mobiliser même une grande partie de ceux d'en bas pour un travail au profit de ceux d'en haut, afin de réclamer ou d'annuler les concessions que l'Italie avait dû faire à la fin de la Première Guerre mondiale. Et parmi ses ambitions se trouvait aussi la destruction, encore une fois, de la révolution, mais cette fois pas de la révolution comme idée abstraite, mais la révolution incarnée par l'Union soviétique. Et cela, encore une fois, Hitler a dit « moi je ferai ça, moi je détruirai l'Union soviétique ». Il a failli le faire en 1941, et pas mal d'autres pays impérialistes ont en fait ont espéré qu'il allait le faire. Et là, encore une fois, alors dans ce sens-là, la Deuxième Guerre mondiale était la deuxième partie de la Première Guerre mondiale. On parle de la guerre de 30 ans du XXe siècle. Encore une fois, on a pu combattre la révolution, cette fois dans la forme de l'Union soviétique. Et encore une fois, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. En fin de compte, l'Allemagne a perdu. Et à la fin, les soviétiques révolutionnaires étaient à la main. Et encore une fois, la victoire de l'Union soviétique a forcé, et l'exemple, le succès de l'Union soviétique, ont forcé les élites à Londres, à Bruxelles, à Paris, d'introduire des concessions afin d'empêcher que les gens veuillent suivre l'exemple soviétique. C'était un danger, c'était un risque. À la fin de la Première Guerre mondiale, vous savez, peut-être que je ne connaissais pas très bien l'histoire de ce qui s'est passé en 44, en 45, en Italie par exemple, en France, un peu partout, les résistants étaient aussi, jusqu'à un certain point, des révolutionnaires. Alors on a encore une fois dû introduire des réformes et faire des concessions de lois sociales, etc. pour faire concurrence à l'Union soviétique. Mais en 1990, l'Union soviétique s'est écrasée. Tout d'un coup, toute pression. C'est plus nécessaire de faire la concurrence. Maintenant, le moment est venu de réclamer, de reprendre tout le terrain qu'on avait dû céder à la cause révolutionnaire. Tout d'abord en 1918-1919 et après en 1944-45. Et c'est à cause de ça, mes amis, que depuis la chute de l'Union soviétique, qu'on a fêté, célébré comme une grande victoire de la démocratie, la réaction a fait sa grande entrée en Europe de l'Est, et la réaction antidémocratique se fait sentir aussi dans les pays ici. C'est en train de perdre tous les bienfaits de l'État, providence, etc., qu'on a introduit en 1945. Et vous savez, la réaction, la contre-révolution, a profité de la chute du mur de Berlin. Parce que, par exemple, savez-vous, quand des pays comme la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie, l'Église catholique, un grand pilier de l'ancien régime, par exemple, qui a blessé aussi les soldats partant pour le front en 14, a réclamé toute cette terre, est aujourd'hui un des plus grands propriétaires terriens dans l'Europe de l'Est, et en profite beaucoup. Alors, c'est une chose, dans un sens que là, il y a eu un retour en arrière. On a dit qu'on a introduit la démocratie en Pologne. Mais quand je vois comment en Pologne, il n'y a vraiment pas de séparation entre État et Église, qu'en Pologne, pour être un bon Polonais aujourd'hui, il faut être catholique, c'est l'idée d'avant la Révolution française. C'est l'ancien régime. On a assisté, hein, et on assiste toujours, à un autre retour en arrière de la sorte dont l'élite européenne avait rêvé en 1914, et qui est maintenant en train de devenir réalité, à moins qu'on l'empêche.
Depuis que l'homme écrit l'histoire, depuis qu'il bataille à cœur joie, entre mille et une guerres notoires, si j'étais tenu de faire un choix à l'encontre du vieil Homère, je déclarerai tout de suite, moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Est-ce à dire que je méprise les nobles guerres de jadis, que je me soucie comme d'une cerise de celle de 70? Au contraire, je la révère et lui donne un satisfait. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Je sais que les guerriers de Sparte plantaient pas leurs épées dans l'eau, que les grognards de Bonaparte tiraient pas leur poudre aux moineaux. Leurs faits d'armes sont légendaires, aux gardes à vous je les félicite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Bien sûr, celle de l'an 40 ne m'a pas tout à fait déçu. Elle fut longue et massacrante, et je ne crache pas dessus. Mais à mon sens, elle ne vaut guère, guère plus qu'un premier accessite. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mon but n'est pas de chercher noise aux guérillas, non fichtre non. Guerre sainte, guerre sournoise, qui n'osent pas dire leur nom. Chacune a quelque chose pour plaire, chacune a son petit mérite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Du fond de son sac à malice, Mars va sans doute à l'occasion en sortir une vraie délice qui me fera grosse impression. En attendant, je persévère à dire que ma guerre favorite, c'est mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18. C'est mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18.
Flanders fields the poppies blow between the crosses, row on row, that mark our place, and in the sky the larks still bravely singing fly, scarce heard amid the guns below. We are the dead. Short days ago we lived, felt dawn, saw sunset glow, loved and were loved. And now we lie in Flanders fields. Take up our quarrel with the foe. To you from failing hands we throw the torch. Be yours to hold it high. If ye break faith with us who die, we shall not sleep, though poppies grow in Flanders fields.
Finalement, vous êtes professeur donc à Toronto.
J'étais.
Vous étiez. Mais comment à Toronto vous voyait-on? Parce que Toronto, c'est néolibéralisme presque absolu, d'après ce que j'en sais. Et des livres pareils.
Le gouvernement canadien est un gouvernement néolibéral, c'est certain.
Oui,
les conservateurs néolibéraux.
Ouais. Bien sûr.
Mais il y a toujours des gens qui sont un peu différents. Hein.
Oui, non mais. Ils vous ont pas brûlé, c'est le principal.
En fait, vous savez. On a parlé des années 60 quand j'étais à l'université ici. Moi, j'étais un étudiant brave, j'ai fait mes études, je n'ai jamais participé aux manifestations. Ça ne m'intéressait pas. J'ai voulu faire, donc j'ai voulu faire mes études. Et je viens d'un milieu assez conservateur, clérical, de la Flandre profonde.
J'ai en France, deux, c'est comme moi.
J'ai deux sœurs qui sont religieuses, qui n'aimeront pas lire mon livre. Une est décédée. Alors, ce n'est qu'en en fait, en étudiant l'histoire que je suis devenu un peu plus radical. Un tout petit peu, je ne suis pas un grand radical, mais parce que j'ai commencé à comprendre des choses en étudiant l'histoire qui ne clochent pas de ce qui était dans nos livres d'histoire. Et par après, j'ai commencé à lire des livres qui m'ont ouvert les yeux, un peu comme j'espère que mes livres ouvriront les yeux à d'autres. C'est comme ça. Et ça, quand, une fois qu'on commence, on comprend de mieux en mieux. Et là, on commence vraiment à comprendre l'histoire. Vous savez, au début, l'histoire, comme tout le monde, c'est un tas de fêtes, l'un après l'autre.
Des dates.
Des dates et des noms. Et ça aura la bol après, quelques temps, on ne se veut plus de ça. Mais une fois qu'on commence à comprendre, ça devient fascinant.
Les enjeux.
Et pour le comprendre, il ne faut pas seulement connaître les fêtes. Il faut connaître une façon d'analyser et de comprendre le fait. Et une façon d'analyser et de comprendre, c'est le marxisme. Il n'y a aucun doute. Selon moi, l'approche marxiste est la seule qui permet de vraiment comprendre ce qui s'est passé. Et je n'ai pas ça pour faire plaisir à Karl Marx, c'est parce que c'est vrai. Et chaque fois que je lis une étude marxiste, je dis, c'est vrai. Et il y a autre chose, c'est des belles histoires des fois, mais c'est pas ça, c'est non.
Alors là,
je trouve, voilà, il faut... Mais le problème, c'est que, ce problème des fois, c'est qu'il y a trop d'historiens, d'auteurs marxistes, qui sont un peu trop dogmatiques, quoi. Il faut écrire pour le peuple en général, pas pour d'autres marxistes.
Oui, il faut écrire pour tout le monde, bien
moi,
sûr.
Moi, j'essaie d'écrire pour le grand public. Et il ne faut pas que ce soit, je ne dis pas trop difficile, non, je ne sous-estime pas le public, mais il faut écrire pour le public, pour qu'ils disent, oh, c'est difficile à comprendre, c'est une analyse économique, il y a des types, en France, il y a beaucoup d'experts comme ça qui écrivent le marxisme, moi, j'étudiais ça quand j'étais encore, ça c'est difficile, une analyse, ils discutent. Et là, on a la bol après quelque temps aussi. Et là, ils discutent entre eux, ils se fâchent parce qu'ils ne sont pas d'accord sur un point.
C'est exactement ça.
Ouais, c'est comme ça.
Mais ils écrivent beaucoup aussi.
Oui, parle beaucoup. Ouais. Ah, ouais. Je peux faire ça aussi, moi.
D'accord.
Vous êtes de Lille maintenant.
Voilà, c'est ça.
Merci. Moi, je suis venu une fois à Lille présenter mon livre.
Oui, nous étions là. Et vous êtes passé à la radio. C'est bien. Et en tout cas, moi, je vous ai découvert sur votre vidéo. Une vidéo que vous avez fait au Canada sur justement la Seconde Guerre mondiale.
Non, pas au Canada.
Vous ne l'avez pas fait en France. Oui, il était en français. Mais en tout cas, pour vous faire connaître, c'est ça le mythe de la bonne guerre.
On l'a fait chez ma fille à Bruxelles. Mais le producteur est venu de Cognac, le nom Marc Bialy.
D'accord.